ma come on a TV.
Des chiens, après avoir vu son frère violemment arrêté par les tiens pour quelques grammes. Le shit n'en plus jamais la loi des drames. Style enfant violé ou bombe dans les métros ou dans les trams. Eh flic, quand tu nous agresses verbalement, sans coup boy, sans raison, tu nous cherches généralement. Sans motif, voilà, on voit rien que derrière les vannes que tu envoies. Tiens, tant qu'une chose, c'est que l'aide nous perd son sang-froid. Et flic, comprends que ton air supérieur à glace. J'ai la haine quand je vois un frère à moi qui s'est fait ta base.
Fermez la rue qui souffre. Plus de 60 000 détenus, les prisons sont à bout de souffle.
I am dangerous, dangerous, dangerous.
Voyou, barbare, intégriste, casseur, terroriste, salopard, sauvageon. Est-ce que le compte est bon?
Car tout porte à croire que les tiégars ont toute la France contre eux.
Dangerous.
Au déboire à Benoît, c'est pas une nouveauté.
Dangerous.
Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences, on n'a jamais le choix.
Dangerous. Dangerous. Dangerous.
On est soudés, solides et solidaires.
Je veux pas rester ici.
Bon sang, laissez-moi en sortir.
Je suis soi-disant ici pour aller mieux,
mais c'est encore pire.
Si c'est là-dedans que je dois m'habituer, c'est là-dedans que j'ai envie de tuer.
Est-ce que je demande
ma liberté me soit restituée?
Besoin d'évasion, évasion, évasion, effort d'imagination. Ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit. On veut s'échapper de la prison.
Je sais que c'est possible.
Il y a comme un goût de ouf dans le cœur de mes soeurs.
Tout pété, tout démonté, tout brûlé.
Sortez les briquets, sortez les briquets.
Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce qu'on appelle la lutte anticarcérale.
Bonjour. Comme chaque troisième mercredi du mois, vous écoutez Les Murs ont des oreilles, une émission contre la tôle et tous les enfermements sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Alors aujourd'hui, on a décidé de se saisir de l'occasion de la diffusion d'un texte écrit par un camarade pour faire entendre un discours critique sur les aménagements de peine. L'idée, c'est pas du tout de porter un jugement sur des choix individuels. On s'en sort comme on peut face à la tôle. Mais ici, on va essayer de décortiquer et de mettre en lumière les conséquences des aménagements de peine auxquels on n'est pas forcément préparé quand on pense aux aménagements de peine. Et ensuite, dans une deuxième partie, on aura plus des actus et des brèves. Donc on commence tout de suite avec la partie sur les aménagements de peine, en fait, pour différentes raisons. C'est une idée, un concept assez présent dans l'espace médiatique en ce moment, avec d'une part la circulaire Taubira, dont on a déjà parlé dans l'émission précédente. Donc la circulaire Taubira, c'est un texte qui donne les grandes lignes politiques de ce que va être la justice sous ce gouvernement. Et donc ce texte annonce l'extension des mesures d'aménagement de peine. Et d'autre part, il y a une lettre, un texte qui s'appelle « Réflexion autour des aménagements de peine » qui a été écrit par Mike et qui est disponible sur des sites d'information alternative comme rebellion.info, par exemple. Vous pouvez donc retrouver ce texte-là en ligne. Et donc, on a ces deux textes et c'est deux façons différentes de présenter les aménagements de peine. Et on a voulu donc se saisir de l'opportunité du texte de Mike pour porter un discours et une analyse critique qui sont pas très présents, en fait, à propos des aménagements de peine. Alors, pourquoi certaines personnes préfèrent refuser les aménagements de peine alors que tout le monde dit que les aménagements de peine, c'est quand même plus vivable que la tôle et c'est un peu l'idée commune qu'on en a. Ben, c'est un peu à cette question qu'on va essayer de répondre dans cette première partie de l'émission. Alors, pour passer plus dans le concret, les aménagements de peine, c'est quoi ? C'est quand on a une partie de la peine, donc plutôt la fin de la peine de prison ferme, qui est transformée en une autre peine. Alors ça peut être par exemple la libération conditionnelle, la semi-liberté, le placement extérieur ou le placement sous surveillance électronique. Ça c'est des exemples, il y en a d'autres, mais c'est en tout cas de cela qu'on va le plus parler aujourd'hui. Et on va revenir un peu là-dessus pour détailler les conditions auxquelles ces aménagements sont accordés juste après. Et en guise d'introduction aussi, juste donner un chiffre. En 2010, ces aménagements de peine, ça concernait 14% des personnes écrouées. Alors, la première chose qu'on avait envie de dire là-dessus, c'était que donc c'est le juge d'application des peines qui décide de l'aménagement des peines. Et donc, c'est un système où c'est une personne qui, avec le dossier détenu ou futur détenu, qui va décider aussi bien de la forme que peut prendre l'aménagement que des obligations qui vont y être attachées. Donc là, on est dans un système où c'est cette personne qui va décider ce que va être réellement la peine. La peine est prononcée avant par un juge. Et là, ce que la personne va réellement faire, c'est juste cette personne qui va en décider dans son bureau. Et donc, il y a un peu cette façade cachée de la justice qui est pourtant hyper importante. On voulait aussi rappeler qu'il y a de grosses difficultés et de grands délais à attendre pour l'obtention des aménagements de peine, parce qu'on a des gros dossiers à remplir et qu'il y a tellement de demandes que les juges d'application des peines, les JAP, sont complètement débordés. Après, on se disait aussi que c'était bien pour comprendre dans quelle idée sont pensés les aménagements de peine, de regarder à quel titre et pour quel motif ils sont accordés. Et en fait, ce qui saute aux yeux, c'est que la principale raison pour laquelle ils sont accordés, c'est le travail et la formation professionnelle, bien sûr, ou alors pour être soutien de famille. Donc, en gros, faire là aussi du travail domestique. Alors, ce qu'on a, c'est bien un échange de liberté visible. On ouvre une porte. Contre la mise à disposition de la personne pour du travail. Et sachant qu'en plus, ce n'est pas du tout tous les postes, tous les métiers ou toutes les structures qui sont habilitées à recevoir des personnes en semi-liberté ou en liberté conditionnelle, etc. Et que tout reste hyper contrôlé. Donc l'employeur, le patron, devient lui-même une personne chargée de la surveillance du détenu. Alors, ce qui est bien précisé, c'est que toutes les demandes, elles marchent que si on a, je cite, un projet sérieux d'insertion ou de réinsertion. On va reparler un peu plus tard d'insertion et de réinsertion. Et donc, cette insertion-là, elle doit être garantie par une structure qui est reconnue comme légitime par l'État, comme une entreprise ou la famille. Et donc, ça fait un peu l'effet que c'est l'administration pénitentiaire qui va confier le détenu à une autre institution qui, elle, va être chargée de garantir son insertion, de surveiller du coup la personne d'une part, mais aussi de garantir son insertion, ce qui veut concrètement dire la soumission de cette personne aux normes de la société qui vont être les normes de la famille, les normes du monde du travail. Ensuite, pour parler un petit peu des obligations qui sont attachées à ces régimes d'aménagement de peine, en fait, elles sont très nombreuses et elles touchent tous les domaines de la vie. Donc, rentrer dans ces régimes-là, Et encore une fois, c'est pas pour critiquer les personnes qui en passent par là, hein, mais c'est bien pour comprendre profondément ce qui se passe. Donc rentrer dans ce régime, ça induit le fait de laisser entrer aussi le contrôle dans sa vie privée à l'extérieur. Concrètement, par exemple pour la liberté conditionnelle, c'est donc tu es censé avoir un, enfin t'es pas censé, t'es obligé d'avoir un lieu d'habitation fixe. Ton propriétaire ou les personnes qui te logent et qui t'hébergent doivent donner leur accord et t'es dans l'obligation de donner régulièrement à la personne qui te surveille, donc la plupart du temps un conseiller du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP. Donc tu dois lui donner tous les renseignements dont il a besoin sur ton emploi, ton habitation, tes moyens de subsistance. Donc clairement, ça veut dire qu'il y a une personne qui fait partie du système de la prison, quoi, qui a un droit de regard sur comment tu utilises ton argent, comment tu le gagnes et comment tu vis. Donc ça ouvre une porte à la surveillance sur ta vie privée et du coup ça fait un peu cet effet que c'est donnant-donnant. Eux, ils t'ouvrent une porte, t'es plus dans la prison, mais par contre toi tu dois leur ouvrir une porte aussi pour qu'ils regardent comment tu mènes ta vie. Pour la semi-liberté, ça, c'est que t'as le droit d'être dehors pour aller au travail selon les horaires définis par l'employeur. Donc si tu travailles dans un restaurant par exemple, et ben les horaires où tu auras le droit de sortir de la tôle, et ben ça va être pendant les temps de travail, donc le midi et le soir. Si c'est plus dans une asso ou à l'usine, ben ça va être pendant la journée de travail un peu classique. Donc c'est ça, tes horaires de liberté sont définis à ce moment-là par ton employeur. Et le reste du temps, ben, tu retournes à ces tôles de semi-liberté avec toujours aussi des conditions qui sont variables selon les jugements, comme par exemple l'interdiction de croiser certaines personnes, l'obligation d'indemniser les parties civiles et encore d'autres choses comme ne pas aller dans certains lieux, etc. Pour le placement sous surveillance électronique, donc c'est ce qu'on appelle le bracelet, parce qu'en fait c'est un bracelet qu'on met à la cheville. Et donc là, tu as des horaires où tu dois pas, t'as pas le droit de sortir de ta résidence, du lieu que tu as déclaré. Et donc là, ça fait que en fait, le lieu où tu habites, bah, ça devient le lieu où tu es enfermé, selon des horaires définis par le JAP. Et donc, la plupart du temps, c'est assorti d'une obligation de travailler ou en tout cas de chercher du travail très activement. Donc, tout ça, c'était un peu pour montrer comment toutes les obligations qui entourent les aménagements de peine, eh ben, ça donne un droit de regard sur ta vie privée. Et aussi pour montrer comment ces aménagements de peine, ça implique des partenaires privés. Que ça soit un patron, un organisme de formation, mais aussi des proches qui vont être tout un ensemble de personnes qui vont te surveiller, quoi. Et plus largement, on voulait rajouter que l'aménagement de peine, ça montre aussi, quand on voit comment la peine, elle se dilue, on n'est plus sur de la prison ferme, etc. Donc comment c'est non seulement un contrôle qui s'étend, mais aussi que la justice, ça reste quand même tout le temps sur une idée de punition. Et que, pour ouvrir un peu, au-delà des questions d'enfermement, c'est cette notion... de rendre la justice en punissant ou par l'enfermement ou par le contrôle qu'il faut questionner pour une remise en cause réelle du système qu'on critique ici.
Y ahora estoy aquí pensando en ti mi compañera porque no estás junto a mí tan encerrado en una celda. Y tú estás allí, mirando los barrotes que te encierran, pensando que los fabricaron obreras para su propia represión. Yo ahora estoy aquí, pensando en ti, mi compañera, porque no estás junto a mí, tan encerrado en una celda. Y tú estás allí. gentes que se encierran pensando que los fabricaron obreras para su propia represión. Pero no sufras, en la calle aún somos muchos más y en la lucha seguirán, seguirán. Pero no llores, los barrotes de la celda se verán y algún día libre serás. Serás encerrada por querer luchar por la libertad, donde ya no se recuerde la palabra militar. Encerrada por querer luchar por la libertad de las nuevas generaciones, dejarnos un mundo de verdad. Encerrada por gritar y no callar, te metió entre rejas un montaje policial. Encerrada, torturada, pisoteada, golpeada. Torturada, pisoteada, encerrada por este estado fascista y todo tu capital. Encerrada, torturada, pisoteada por este estado fascista y todo tu capital. Y ahora estoy aquí pensando en ti, mi compañera, porque no estás junto a mí. Te han encerrado en una celda y tú estás allí mirando los barrotes que te encierran, pensando que los fabricaron obreras para su propia represión.
Pour remettre en contexte la lettre dont on parle maintenant, c'est une lettre écrite par Mike. Mike, c'est un militant anti-autoritaire de Chambéry. L'histoire, elle a déjà quelques années. Elle commence le 1er mai 2009 quand Mike est blessé, grièvement blessé, même lors d'une explosion dans un entrepôt abandonné près de Chambéry. Cette explosion a aussi coûté la vie à sa camarade Zoé. Suite à ça, il y a une enquête, il est très vite arrêté et hospitalisé dans la foulée pour être placé en détention préventive dans le cadre d'une enquête antiterroriste pour détention et usage d'explosifs. L'instruction antiterroriste va durer plusieurs années. C'est une enquête lourde qui permet de nombreuses perquisitions, de nombreuses arrestations. Quatre personnes resteront en détention préventive pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant d'être ensuite relâchée sous contrôle judiciaire. Elle reste en contrôle judiciaire plusieurs années en attente de leur procès, qui a eu lieu ce printemps-là 2012, le 25 mai. Des peines de prison avec sursis ont été prononcées contre quatre personnes, mais en ce qui concerne Mike, il est condamné à 6 mois de prison ferme, en plus de 6 mois de sursis. Comme il a déjà passé 2 mois en prison préventive, il doit encore 4 mois de sa vie à l'État. Voilà la lettre qu'il a écrite récemment.
Le 16 octobre 2012, j'ai été convoqué chez une JAP, juge d'application des peines, pour discuter des formes que prendra la condamnation à une année de prison, dont 6 mois avec sursis simple, prononcée contre moi au procès du 25 mai 2012, en relation avec l'explosion du 1er mai 2009 à Cognin, en Savoie. Après de longues et nombreuses réflexions, je suis finalement restée dans une ligne politique proche de la rupture face aux autorités juridiques, tout en plaçant cette rupture dans un profond conflit avec le concept même d'autorité et les dérives carcérales et étatiques qui en découlent. J'ai également refusé d'entrer dans les cases de la sédentarisation et du travail salarié, confirmant ainsi ma détermination à ne pas m'intégrer dans leur misère sociale. Les conséquences de ma position et ma volonté de ne pas entrer dans un dialogue et une pacification du conflit nous opposant ont fait que la question même des aménagements de peine n'ont pas été abordées par l'AP, administration pénitentiaire, et que je suis convoqué le 7 janvier 2013 à la maison d'arrêt de Chambéry pour y purger le restant de cette peine. 4 mois ferme, 2 mois et demi en comptant les hypothétiques remises de peine. Contrairement à ce que prétend la justice qui essaya en vain de me le faire signer, ce n'est pas une détention volontaire. C'est la visibilisation d'un rapport de force où les armes sont inégales et leur pouvoir de nuisance sur ma vie est tel que j'ai décidé, en gardant la possibilité de changer d'avis, de me rendre en prison. Malgré ce rapport de force, mon désir d'un monde sans domination n'en est que renforcé et ma détermination à lutter contre toutes les formes d'autorité ne peut qu'être de plus en plus grande. J'en profite également pour remercier les divers groupes et individus ayant partagé les discussions et les réflexions qui m'ont aidé à aboutir à mes prises de position actuelles. Lors de ma mise en détention, mon adresse ainsi que mon numéro d'écrou seront diffusés et les courriers seront les bienvenus. Parce qu'ici et ailleurs, nos existences et nos espaces de vie ne sont pas aménageables. Détruisons ce qui nous détruit et finissons-en du concept d'autorité et de domination que crève ce monde de merde. Mike. PS, j'ai écrit le texte suivant peu avant de recevoir la convocation au JAP et il aborde quelques réflexions et quelques questions concernant les aménagements de peine.
Semi de liberté. Réflexion autour des aménagements de peine. Suite au verdict et aux diverses formes d'enfermement pouvant en découler, il me semble important d'essayer de mettre en mots quelques-unes de mes réflexions. En comptant les 2 mois déjà passés en préventive, il me reste donc 4 mois fermes à purger et 6 mois avec sursis pour les 5 prochaines années. Spontanément, mon premier réflexe fut l'envie de fuir cette situation, mais rapidement, j'ai été découragée par l'isolement, l'énergie et les moyens techniques que requiert une cavale en bonne et due forme. Et la peur de voir mon quotidien, mes projets et mes liens sociaux rythmés une fois de plus par la psychose de l'enfermement. Malgré ma volonté politique d'insoumission à la paix et le désir de leur rendre la tâche la plus dure possible, j'ai quand même rapidement conclu que ma fuite causerait plus de dégâts sur ma vie et celle de mon entourage que les quelques mois d'enfermement prononcés contre moi. J'ai donc essayé de me projeter dans les diverses formes que pourrait prendre mon enfermement afin d'anticiper les conséquences qu'aura cette condamnation dans mon quotidien et celui de mes proches.
Face aux différents types de détention mis en place par l'administration pénitentiaire pour les courtes ou fins de peine, semi-liberté, bracelet électronique, de nombreuses questions concernant ces différents aménagements de peine sont apparues et se sont affinées au fil des réflexions individuelles et collectives. C'est donc sur la dualité entre le choix de l'aménagement de peine et celui de la prison ferme que va se porter la suite de ce texte. Parce que le choix d'un aménagement de peine comme amélioration du quotidien n'est valable que dans une logique carcérale, il est donc primordial pour moi de me poser de réelles questions sur les formes que peut prendre l'enfermement durant cette période, afin que ma décision ne soit pas conditionnée par l'administration pénitentiaire, mais le fruit de réflexions collectives et individuelles visant à limiter les conséquences des contraintes en découlant, tout en gardant une cohérence politique. Dans une situation où les aménagements de peine permettent d'augmenter massivement le nombre de personnes sous contrainte carcérale, tout en réduisant considérablement leurs coûts, ils introduisent quotidiennement ces contraintes au sein même des sphères publiques et privées de la population et garantissent une main-d'œuvre docile et exploitable à moindre prix grâce aux moyens de chantage et de contraintes encore plus importants que dans une situation salariale classique. Il m'est donc impossible de ne pas être sceptique face aux pratiques judiciaires visant à étendre l'enfermement hors des murs des prisons. Il est cependant vrai qu'un aménagement de peine peut permettre d'avoir plus de liens sociaux avec nos proches, car les possibilités de rencontre et de communication ne sont plus soumises au formalisme et à l'arbitraire des parloirs, que sans l'intermédiaire et les limitations des cantines et avec la possibilité de pouvoir cuisiner, de se procurer nos aliments, de se doucher quand nous le désirons, d'entretenir une partie de sa vie sociale, affective et sexuelle, on conserve une bien plus grande autonomie dans ce qu'il reste d'un quotidien en comparaison de celui vécu entre les murs d'une prison.
Mais cela est-il vraiment représentatif de la réalité d'un aménagement de peine ? Dans ma situation personnelle de refus de la sédentarisation et du travail salarié, aménager cette peine reviendrait inévitablement à participer à l'élaboration des formes de la sanction et par conséquent faire du partenariat avec la paix. Durant les quelques années vécues sous contrôle judiciaire, j'ai eu le temps et les occasions pour affiner quelques réflexions sur les contraintes carcérales hors des murs. J'ai pu constater que lorsqu'on est enfermé dehors, nos attentes se tournent automatiquement vers notre entourage. Et quels que soient les outils mis en place, les déceptions apparaissent. Faire le choix d'un aménagement de peine reviendrait donc à avoir des frustrations vis-à-vis de mes proches, au lieu de les diriger contre l'État qui est à la base de mes oppressions. Vivre une réalité carcérale à l'extérieur me mettrait dans une situation d'isolement, puisque je me retrouverais seule à vivre cette oppression parmi des gens avantagés sur leur liberté de mouvement. Vivre une telle situation d'isolement entraînerait obligatoirement des hiérarchies sur la répartition des tâches et des attentes affectives au sein de mes relations sociales et, même avec une réelle volonté et en y mettant une attention particulière, il me serait impossible que les conséquences ne s'incrustent pas dans mes liens sociaux et envers mes proches. Être enfermé dans une cellule dont la porte reste ouverte m'obligerait à refaire le choix de l'enfermement à chaque fois que je serais tenté de la franchir. Cela reviendrait à m'autodiscipliner continuellement, de sorte à m'interdire toute pulsion visant à mon émancipation sociale, politique et affective. Dans un mode de vie collectif, cela reviendrait à partager les rôles de maton et entraînerait inévitablement des relations sociales où la répression se mélangerait aux autres paramètres demandant une gestion quotidienne.
Dans ma période de contrôle judiciaire, j'ai aménagé mon équilibre social en créant des brèches dans les contraintes imposées. Et accepter un bracelet électronique reviendrait à supprimer ces espaces de liberté, sans lesquels mon équilibre social ne peut qu'être lourdement affecté. Cependant, les réalités carcérales actuelles ne permettent pas de connaître sa date de sortie, puisqu'à tout moment, une infraction commise en détention peut aboutir à une nouvelle condamnation et entraîner donc un allongement de la durée de l'incarcération. Ayant des revendications et essayant d'avoir des pratiques anti-autoritaires dans mon quotidien, il m'est difficile d'imaginer une réalité carcérale sans conflit avec la paix. Et cela reviendrait à me projeter dans une période où je serais sans cesse tentée d'étouffer ma conscience et mes instincts de révolte dans la perspective de ne pas prendre de peine supplémentaire en cours de détention. Faire le choix d'être incarcéré reviendrait à perdre le contrôle sur les formes que prendrait cette condamnation et laisserait la possibilité à la paix d'organiser mon quotidien durant la période d'enfermement, de choisir le lieu d'incarcération, d'avoir un regard sur mes liens sociaux à l'extérieur via les parloirs, les courriers, etc. Ce choix entraînerait également que mes amitiés soient affectées par une séparation physique et reposerait presque uniquement sur la confiance existante et celle pouvant être créée et entretenue par la solidarité via des actions, du courrier ou des parloirs. Et mon entourage physique sera très restreint et limité aux quelques personnes ayant un droit de visite. Sans une attention particulière au ressenti de chaque personne de mon entourage, il me paraît probable qu'une certaine hiérarchisation entre mes relations soit accentuée et puisse être une source de conflit chez des personnes déjà suffisamment affectées par la situation. Mais ce choix reviendrait également à construire de nouveaux liens sociaux dans mon quotidien, sans déséquilibre, puisque je le partagerais avec des personnes vivant la même réalité carcérale, et que cela me pousserait à diriger mes frustrations sur les causes de mes oppressions et non contre mes proches.
Dans ma période d'incarcération préventive, j'ai le souvenir de fantasmer sur le monde extérieur, sur la force de mes relations affectives et d'avoir envie de croquer la vie à pleines dents dès ma sortie. Face aux souvenirs de déprimes et de frustrations sociales ressenties lors du début de mon contrôle judiciaire et de mes difficultés à retrouver un épanouissement total et un épanouissement social et affectif, il me paraît plus confortable de me projeter dans une réalité carcérale afin de me préserver de mes frustrations sociales que de me projeter dans une situation où de nombreux éléments me rappelleraient une période de ma vie particulièrement éprouvante. J'ai également conscience que le décès de Zoé m'a plongé dans une réalité où tout mon équilibre social et affectif a été modifié. Les quelques mois de détention me permirent de vivre cela isolé, dans une sorte de bulle, et je n'ai eu réellement conscience du vide occasionné par sa mort et de ses conséquences dans ma vie qu'une fois sorti de prison. Ma détention préventive s'ajoutant à une situation de reconstruction physique et psychique, j'ai vécu cette période dans un mode de survie, et je n'ai laissé que peu de place à mes sentiments et frustrations, et ceux-ci n'ont pu apparaître qu'une fois sous contrôle judiciaire. En écrivant ces quelques lignes, je me rends compte qu'il est difficile pour moi d'être rationnel dans ce que je ressens face à la dualité bracelet-prison, car cela fait référence à des périodes complexes de ma vie dont je n'ai pas encore pris suffisamment de recul pour affronter et comprendre le rôle de la répression, du deuil, des répercussions physiques de l'accident, les nombreuses autres conséquences affectives et leurs liens avec ma situation actuelle. Parce qu'au final, ce choix n'est pas le mien, et que jamais je ne ferai le choix d'être enfermé dans une prison ou sous surveillance électronique, mon choix se limite à éviter l'aménagement de peine ou la détention en régime fermé. D'un point de vue personnel, je n'arrive toujours pas à anticiper la position que je prendrai face au juge d'application des peines, si je tenterai ou non d'aménager ma peine, et je trouve primordial d'avoir la liberté de changer d'opinion autant que fois que nécessaire. Cependant, ma conscience politique et mes pratiques de lutte anti-autoritaire font que si je cherche une cohérence, je ne peux qu'être contre les aménagements de peine et que l'option rendant la tâche la plus difficile et la plus coûteuse à l'administration pénitentiaire est celle de la détention au régime fermé. Mais il me paraît indispensable d'être également attentif à mon équilibre affectif et social au moment où j'y serai confronté, afin qu'un dogme politique ne soit pas le seul paramètre qui influence ma position. Le plus important à mes yeux n'est donc pas la décision finale résultant de cette situation, mais les outils permettant de construire et d'affiner des réflexions autour de cette question, et faire en sorte que ces réflexions puissent alimenter des discussions et des pratiques, collectives comme individuelles, dans les luttes anticarcérales et anti-autoritaires de cette société. Force et courage à celles et ceux qui luttent contre toutes les formes d'enfermement. Mike.
Quelques commentaires par rapport à cette lettre. Déjà pour commencer, le fait de parler de dialogue avec le JAP et de choix par rapport au fait de demander des aménagements de peine ou alors de purger une peine d'emprisonnement ferme, c'est complètement hypocrite en fait de parler de dialogue avec un juge d'application des peines. Un dialogue, dans ce qu'on imagine, c'est un truc qui se passe à deux, où on se met un peu d'accord, où on parle ensemble. En fait, là, dans ce cas-là, la personne qui est en face, c'est une personne qui fait partie de la machine qui enferme. Trouver un terrain d'entente avec une personne qui a cette place-là, c'est pas possible. Cette personne-là, elle exerce un métier qui est celui d'enfermer et de contraindre les personnes. Par contre, en face, quand on a un rendez-vous avec le ou la JAP, en fait, il s'agit de voir comment on va sauver sa peau au maximum et hypothéquer le moins possible les mois et les années qui arrivent devant nous. Les juges, ils ont un pouvoir de contrainte qui est énorme et une possibilité de nuisance sur la vie de milliers de personnes, et on ne peut pas parler de dialogue en fait quand on a un rendez-vous, un entretien avec eux. Tout comme on ne peut pas parler de choix aussi entre demander un aménagement de peine ou se retrouver à l'intérieur. Ensuite, il est question aussi du sursis. Moi, je voulais préciser que le sursis, ça peut paraître un soulagement en fait d'avoir une partie qui n'est que du sursis, entre guillemets, d'enfermement. En fait, le sursis, c'est aussi avoir une épée de Damoclès en permanence sur sa tête. Ça veut dire, pendant plusieurs années, se faire pincer pour un truc. Ça veut dire que les mois de sursis qui étaient en l'air, ils tombent. C'est avoir toujours cette menace, en fait. Les peines de sursis peuvent être prononcées par rapport à des faits qui ont été commis, en plus d'une peine de prison ferme et ou en plus d'une amende. Il peut aussi y avoir du sursis par rapport à des sorties sous conditionnelles et particulièrement par rapport à, au respect du suivi socio-judiciaire. C'est-à-dire que si on ne suit pas les rendez-vous, les obligations de soins, le fait de pointer, le fait de ne pas aller dans tel ou tel endroit, de ne pas rencontrer telle ou telle personne, de bosser, etc. Le non-respect de ces obligations-là peut entraîner le fait que le sursis tombe, en fait, et la réincarcération. Du coup, c'est quand même vraiment une contrainte qui est très forte, qui peut aussi déjà, d'une part, faire que dans la vie de tous les jours, les faits qu'on commet, ils peuvent avoir des conséquences beaucoup plus lourdes que quand pas de sursis au-dessus de la tête. L'exemple de ça, c'est celui dont on avait parlé la dernière fois. 4 personnes qui se font arrêter par une patrouille à un moment où ils font des projections dans un centre de détention. Il y a une des personnes qui a du sursis et lui, il prend 4 en ferme pour cette histoire de projection. Du coup, c'est quand même vraiment un truc énorme. Et au bout du compte, c'est aussi ce principe que les situations des personnes, le casier judiciaire qu'on se trimballe, le nombre de condamnations qu'on se traîne, ça fait que lors de passage au tribunal, on peut avoir des vieux retours de bâton sur des faits qui n'auraient pas amené les mêmes conséquences s'il n'y avait pas eu ces histoires de sursis au-dessus de la tête. Ensuite, je voulais dire 2 mots de la cavale. Parce qu'il en parle un peu dans cette lettre. Du coup, choisir de partir en cavale, c'est-à-dire opter pour cette solution parmi des solutions autres et pas très réjouissantes qui sont devant, c'est se préparer à vivre des choses assez compliquées. C'est mettre entre parenthèses les liens affectifs avec les personnes qui sont proches, parce que ça devient vraiment source de danger pour se faire rattraper. Ça demande des moyens techniques, de l'organisation, de se débrouiller par rapport à la subsistance, le logement, les déplacements, etc. C'est super compliqué et c'est aussi des sacrées prises de risques. Et c'est des choses dont on parle assez peu. Et du coup, c'est l'occasion de parler au passage d'un bouquin qui s'appelle Incognito, et qui est constitué de récits, d'expériences de clandestinité qui ont été vécues pour des raisons diverses. Et les personnes qui en parlent parlent un peu de ce que ça implique, en fait, des problèmes qui se posent, de qu'est-ce que ça veut dire au niveau du quotidien, etc. Du coup, ce bouquin, il est disponible notamment au local autogéré, au 7 rue Pierre-Dupont à Grenoble. Et aussi redire en fait que cette situation de cavale, elle est d'autant plus compliquée dans un monde où les moyens de contrôle sont très présents, où il y a des papiers pour tout, des numéros d'identification divers qu'on demande pour tout et n'importe quoi. Il y a à plein d'endroits des caméras à tous les coins de rue et surtout des contrôleurs humains en tout genre. Ce qui n'empêche pas que ça reste possible de contourner tout ça. Mais c'était aussi important de pointer que c'est aussi le monde dans lequel on est qui rend tout ça très compliqué. Maintenant, quelques mots par rapport à cette question des aménagements de peine, qui sont présentés souvent comme quelque chose de très positif. Parce que ce qui est vu en face, c'est la tôle, alors forcément, paraît moins pire, entre guillemets. Et là, en fait, la personne qui a fait cette lettre explique que le choix ou le non-choix, en fait, qui est fait, c'est de ne pas demander d'aménagement de peine, parce que ça implique forcément, d'une part, une sédentarisation, et d'autre part, un travail salarié. En fait, ce truc des aménagements de peine, c'est une manière de contraindre et de fixer les personnes dans un espace donné, de bloquer leur temps. C'est une manière, en fait, de mettre les personnes à disposition de la justice et de la société et de les amener à faire ce que, justement, la justice et la société, entre guillemets, veulent la contraindre à faire. C'est aussi se retrouver dans une situation où, justement, le travail salarié, par exemple, c'est quelque chose qui peut tenir la personne, qu'elle se sente tenue, mais au sens de piéger un peu. Parce qu'en fait, tu sais que tu dois avoir un boulot. Ton patron aussi, il sait que c'est un enjeu qui est important pour toi. Et du coup, c'est encore plus facile de te faire accepter des conditions merdiques, de faire pression sur toi, encore plus qu'au boulot de tous les jours où c'est aussi présent. Le bracelet électronique et la contrainte dans un espace donné, ça fait que le lieu de vie, en fait, il devient une prison. Et que les personnes qui partagent ce lieu de vie y subissent aussi cette pression du respect des obligations parce que ça peut conduire à la réincarcération et cette pression-là, elle peut créer des conflits supplémentaires aussi parce que c'est aussi assez tordu en fait parce que c'est un peu cette idée qu'il y a une porte qui est ouverte devant toi qui te donne évidemment envie de la franchir et tu sais que si tu le fais, tu te fais pincer, tu perds bien plus et c'est différent cette situation-là, que quand la porte elle est vraiment fermée, là t'as l'idée de la tentation en permanence. Ça rejoint un peu que disaient aussi des personnes par rapport au fait de se retrouver en centre de semi-liberté, par exemple. Quand t'es là-bas, que t'as la possibilité de sortir en journée, tu sais que si tu te prends un rapport pour une histoire avec un surveillant ou autre, en fait tu peux perdre bien plus que si t'es... en maison d'arrêt, par exemple, parce que du coup, tu te retrouves là-bas alors que tu avais commencé à goûter un peu à autre chose. Du coup, c'est assez pervers comme mécanisme. Et les aménagements de peine, c'est souvent des moyens qui sont préconisés comme si c'était des solutions par rapport à la prison. Et c'est important de préciser qu'en fait, les aménagements de peine, c'est pas des solutions. C'est une manière d'étendre la prison et l'enfermement dehors. Et qu'en effet, on pourrait finalement imaginer un monde où les prisons, elles auraient disparu, en tout cas où elles n'existeraient pas comme on les connaît maintenant, et où elles seraient remplacées par des moyens de contrôle qui seraient différents dehors. C'est-à-dire que les personnes, elles pourraient être contrôlées, on leur imposerait un lieu où vivre, des interdictions de se rendre à tel endroit, on poserait des horaires sur les journées, des heures de sortie, des heures d'entrée, un suivi, un contrôle, comme ce qui est déjà prononcé dans certaines condamnations. Et aussi, comme ce qui se passe souvent quand les personnes sortent, lors de sorties sous conditionnel. Bref, en fait, on pourrait imaginer que ces modalités-là viennent remplacer l'enfermement en cellule. Et en fait, ça serait vivre dans un monde qui enferme autrement. Et finalement, ce monde-là, il serait toujours à détruire. Et c'est important de le dire, en fait, que la question de la prison, c'est pas juste... celle de la prison physique, et c'est aussi la question de tout ce qui nous enferme autrement, pas que dans la prison. Donc spéciale dédicace à ce dont on avait parlé la dernière fois aussi, là, par rapport au projet de Taubira, de vouloir mettre en avant les aménagements de peine comme si c'était une solution.
Thank you. You got the densest concentration of heroin round his parts. I can collect a fortune renting out my veins. You can get methadone at the house of tea, but you would ask the state and blanket authority to slap Rockefeller papers on any addict. That means an automatic 3-year sentence to a prison hospital, as if things weren't already bad enough at the women's house of tea. Out of the houses, out of the jails, up from under women's name, to abolish the house of detention. Ruth keeps seeing me in the papers every day, 3 days running, which makes me a celebrity of the house of tea. Ruth keeps saying, conspiracy, I know you had nothing to do with those bombings. Conspiracy, I know you had nothing to do with those bombings.
Mot par rapport à l'insertion et la réinsertion. En fait, c'est une hypocrisie qui est très grande. Il s'agit de jouer un jeu, donc le jeu de l'insertion ou de la réinsertion. Donner les garanties d'un boulot, donner les garanties d'un logement, etc. Cela dit, c'est aussi un peu le parcours du combattant, d'arriver à réunir ces garanties-là quand on est à l'intérieur. Mais en fait, c'est aussi supporter tout le discours moralisateur qui va autour, donc le discours des juges, de l'administration pénitentiaire, des travailleurs sociaux, etc. Parfois aussi de donner le change, ou pas, c'est-à-dire de leur donner suffisamment de miettes pour qu'ils lâchent un peu du lest. Ça, c'est complètement fou, parce que en fait, ce qui peut conduire en prison, pas uniquement, mais ça peut, c'est aussi d'avoir choisi d'autres chemins que les chemins qui sont proposés par cette société. Et du coup, ça voudrait dire que se réinsérer, ce serait se forcer à rentrer dans un moule qu'on a refusé. Ou alors bah, jouer la comédie, en fait. Et dans le cas de peines qui sont plus longues, en fait, c'est des questions qui se posent en amont, bien avant le moment de la sortie, avec tous ces trucs de aller travailler en atelier ou pas, participer aux activités qui sont proposées ou pas, suivre une formation ou pas, et ce que ça implique, de qui est noté, en fait, dans le dossier de chaque personne détenue, le cahier électronique de liaison. Et ce qui est noté aussi dans ce dossier qui suit chaque personne, c'est les appréciations des diverses SPIP, donc c'est les travailleurs sociaux et justement ceux qui s'occupent de réinsertion, des divers psychologues et autres réinsérateurs qui vont jouer beaucoup en fait dans les décisions des juges pour donner un accord ou pas au sujet de sortie conditionnelle, au sujet d'aménagement de peine, mais aussi par rapport à des demandes de permission de sortie. Et justement, c'est un moyen d'exercer une pression très forte sur les personnes qui sont enfermées, parce que ça sert, c'est une carotte énorme en fait. Bien avant que ce soit le moment de la fin, cette perspective-là, elle conditionne les manières de se plier ou pas à ce qui est imposé pendant l'incarcération. La personne, elle sait que les moindres rapports d'incident vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, mais aussi le parcours de chacun, c'est donc dans les cahiers électroniques de liaison, c'est utilisé pour faire un espèce de portrait de la personne là, et que les faits qui se produisent en détention, ça peut amener d'une part à la suppression de remise de peine, et c'est-à-dire que concrètement, c'est se retrouver assez vite à effectuer des mois supplémentaires, voire plus, et d'autre part, ça peut être aussi tout simplement prendre des mois encore en plus par le biais de condamnation pour des faits qui se passent en détention, comme par exemple le fait d'avoir un téléphone portable. Du coup, c'est l'occasion d'en parler un peu, parce qu'on en entend pas mal parler ces derniers temps. Du coup, là, il y a deux infos qui sont sorties dans la presse récemment. Par exemple, une qui est celle d'une personne qui est passée en procès récemment. Il était accusé d'avoir téléphoné, donc avec un téléphone portable, à un travailleur social qui accompagnait sa fille. Il est accusé d'avoir téléphoné à un travailleur social qui intervient auprès de sa fille et de son ex-compagne, de s'être entretenu avec ce travailleur social pour avoir l'occasion de voir sa fille, en fait, lors d'une permission de sortie. Et en fait, la discussion s'est mal passée. Il y aurait eu des menaces, donc l'éducatrice, elle a porté plainte contre le détenu. Il y a eu une fouille dans sa cellule, le téléphone portable a été retrouvé et donc il est passé en procès pour ces faits-là. Et il a été condamné à 9 mois de prison, dont 6 mois avec sursis, pour ces faits-là, tout simplement. Ça, c'est un premier truc. Donc la deuxième, c'est aussi une info qui sort du journal. Une détenue qui aurait, selon la presse toujours, dit de son plein gré au procureur qu'elle avait un téléphone portable. En fait, elle était soupçonnée d'avoir un téléphone portable en détention parce qu'il y avait une conversation qu'elle avait eue qui avait été entendue par des surveillants. Il y avait une enquête, en fait, elle avait été fouillée, etc., pour retrouver ce téléphone portable. Et ça, ils avaient rien trouvé. Et en fait, elle aurait, soi-disant, dit ça de son plein gré au procureur, alors que depuis un an, il cherchait le téléphone. Pour obtenir des permissions de sortie. Et en fait, ce qu'elle a obtenu surtout, c'est qu'elle est passée au tribunal pour ces faits-là. Elle a été condamnée à 24 mois d'emprisonnement, dont 14 avec sursis, ça veut dire 10 mois ferme, et 14 mois en plus que tu te trimbales au-dessus de la tête, là, comme ça, pendant un moment, plus une mise à l'épreuve de 2 ans avec obligation de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé à Rouen, et l'autre... L'autre histoire dont j'ai parlé juste avant, c'était au centre de détention de Vézin, le Coquet, près de Rennes. Du coup, voilà, c'est toujours ce même mécanisme, le bâton et la carotte. La peur de s'en prendre encore un peu plus sur la gueule, qui est à l'œuvre dedans comme dehors, en fait, avec ces histoires de sursis. Et avec cette particularité que dedans, le moindre prétexte peut conduire à des conséquences en chaîne. Que ce soit un outrage, une insulte, ça peut avoir des conséquences très lourdes. Mais ça ne veut pas dire que ça en a, toujours, d'une part. Et d'autre part, c'est certainement pas une raison pour se laisser faire. On entend assez régulièrement des nouvelles qui montrent d'ailleurs que ce n'est pas le cas. Notamment par... le biais des nombreux discours des surveillants qui racontent qu'ils se sentent en insécurité, qu'ils se font agresser, etc., etc. Et donc ça, c'est aussi le signe que tout n'est pas tranquille, et tant mieux. Tant mieux que eux, ils fassent pas leur métier tranquillement. Aussi parce que les moments où dedans comme dehors, il y a des gens qui baissent pas la tête et qui se laissent pas faire, ça peut participer à construire un rapport de force qui change, en fait. Et aussi des solidarités entre les gens sur la base de la révolte et voilà, donc raconter tout ça, en fait, c'est évidemment pas pour faire peur, mais pour permettre de mieux comprendre qu'est-ce que c'est le contexte et mieux pouvoir déceler qu'est-ce que c'est que les failles, en fait, de ce contexte-là aussi. Du coup, il y avait aussi l'envie de préciser un peu sur quelle souffrance et quelles difficultés la proposition de l'aménagement de peine, ça vient appuyer. Parce que, évidemment, l'aménagement de peine, c'est un piège, c'est la prison du dehors, etc. Mais ça permet quand même des choses qui sont pas possibles, en tout cas pas de cette manière-là, dedans. Et ce qui est compliqué, par exemple, c'est que ça vient jouer sur le rapport avec les proches et la possibilité de garder un contact avec les proches et pas que, hein, d'ailleurs. En prison, pour pouvoir garder un contact avec une personne ou la voir, il faut déjà avoir un permis de visite. Il est accordé, mais pas tout le temps. Ça, c'est laissé à l'appréciation du directeur ou de la directrice du centre de détention et en fonction de si la personne a déjà été condamnée ou pas du juge. Et ça, c'est parfois fait aussi après une enquête au sujet des personnes qui demandent permis de visite, parce qu'ils peuvent se permettre de refuser un permis de visite en disant que ce serait une mauvaise influence. Donc effectivement, des fois, il y a des permis de visite qui sont refusés parce que telle personne a un casier judiciaire long comme le bras et que ça leur convient pas, alors ils le refusent, et voilà. En tout cas, quand c'est accepté, ça reste une démarche qui est longue. Délai entre une demande de permis de visite et le moment où un accord est donné ou pas, ça peut parfois aller jusqu'à 3 mois, ce qui est quand même vraiment, vraiment long. Plus, quand on est dedans, on peut pas voir le nombre de personnes qu'on désire. Dehors, on peut essayer de garder un cercle relationnel un petit peu étendu. Dedans, c'est quand même vraiment compliqué. Puis, dehors, on peut aussi choisir de voir, par exemple, 10 personnes en même temps. Dedans, c'est impossible parce que le nombre de visiteurs par parloir, il est limité. et il est variable d'un établissement à un autre. En plus, le nombre de parloirs par semaine, il est limité. Le temps que ça dure, c'est limité également. Les conditions dans lesquelles ça se déroule, c'est aussi extrêmement limité. Et durant les parloirs, les personnes, elles sont pas censées manger, ni boire, ni fumer, ni avoir de rapport sexuel. Les échanges, ils sont conditionnés par cette modalité de rencontre. Les liens, par exemple, par téléphone ou par écrit, ils sont soumis au regard et à la censure de l'administration pénitentiaire. Les objets que la personne elle peut avoir, ils sont soumis aussi au règlement de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire les vêtements qu'elle porte, les médicaments auxquels elle peut avoir accès, les films, les livres qu'elle peut regarder, les occupations qu'elle peut avoir, tout ça c'est réglementé. L'accès à la douche, au sport, la sortie de la cellule, tout est soumis à l'administration pénitentiaire. Le fait de se procurer tel ou tel aliment, c'est dépendant du système de cantine et de son racket ignoble. La possibilité de se faire à manger, de pouvoir soi-même ouvrir sa porte, d'évoluer dans un espace qui est plus grand que 9 mètres carrés, d'avoir un brin d'intimité. Tout ça s'est rendu très compliqué à l'intérieur et c'est soumis au bon vouloir des surveillants aussi parce que un truc et qui est pas des moindres, c'est que en fait en prison on se tape les surveillants tous les jours pour tout et n'importe quoi. Bon, et puis aussi le fait de pouvoir être dehors. Le système des aménagements de peine, il peut paraître alléchant, parce qu'il rend possible autrement tous ces aspects-là. Sauf qu'il est aussi extrêmement pernicieux, parce qu'à la longue, en fait, il donne une impression de liberté, mais elle est complètement illusoire. Et ça peut aussi créer des frustrations qui sont énormes. Quand ça apparaît comme ça, comme une alternative à l'enfermement, on peut se dire que ça vaut la peine, entre guillemets, de supporter toutes ces contraintes. Mais après, quand il s'agit de les vivre au quotidien et pendant un sacré paquet de temps, c'est tout simplement insupportable en fait, ça rend la vie insupportable. Et de ce fait là, c'est pas si rare, les personnes qui refusent les aménagements de peine et qui refusent aussi par exemple de faire des demandes de sortie anticipée ou sortie sous conditionnelle, parce qu'en fait l'avenir que ça laisse imaginer, il est étouffant.
Donc là, on a fini la partie de réflexion sur les aménagements de peine. Et on va maintenant passer à une partie plus actualité et brève.
Voilà quelques nouvelles qui parlent de la sale réalité de la prison. Pour pas oublier qu'en plus du fait d'enfermer, de torturer, la prison, elle tue. Et que la mort, parfois pour des détails qui sont complètement insignifiants, ça fait partie de la prison, beaucoup plus qu'au dehors. Ces faits provoquent des réactions de colère et c'est important qu'on en parle aussi pour pas baisser les bras dans ces situations. Donc il y a une femme qui était détenue à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis qui s'appelle Gourdana, qui a été retrouvée morte dans sa cellule le 2 novembre. Elle se plaignait de douleurs depuis la veille et pendant la soirée, sa co-détenue elle a appelé un médecin qui a refusé de se déplacer. Dans la nuit, le médecin a été rappelé une deuxième fois, mais il a établi un diagnostic seulement par téléphone et le lendemain, Gourdana a été retrouvée morte. Dans l'après-midi, il y a une cinquantaine de détenus qui ont refusé de remonter de la promenade. Les ERIS sont intervenus pour les contraindre à remonter. Et le soir, la majorité des détenus a refusé les plateaux repas. Il y a un homme qui a été retrouvé mort dans sa cellule à Vars le 20 octobre. Le journal local a donné cette nouvelle sans précision et il n'en a pas reparlé plus comme à son habitude. Le 2 novembre, c'est aussi le jour où sont passés en procès trois surveillants en Belgique à Charleroi. Ils sont accusés de faire partie d'un groupe de surveillants qui ont causé la mort de Michael Tequin en 2009, qui est décédé par asphyxie au cours d'un transfert durant lequel les matons lui ont fait des clés de bras qui l'ont étouffé. Et pour rappel, le jour qui suit le meurtre de Michael en prison, plusieurs manifestations avaient eu lieu dans le centre-ville de Jalmiou en bloquant la circulation à des carrefours, en installant des banderoles et aussi devant la prison. Et les proches de Michael s'étaient rendus armés notamment de Kalachnikov, en exigeant que les gardiens assassins sortent de la prison. Par peur des représailles, les matons avaient dû rester à leur tour enfermés bien longtemps après la fin de leur tour de garde. Des nouvelles qui donnent le sourire. À Louvain, toujours en Belgique, une clé qui ouvre toutes les portes des cellules a été perdue et à la suite de ça, le directeur de la prison a été renvoyé. À Orbe, en Suisse, le 25 octobre, 6 détenus ont réussi à s'évader en utilisant des petites cuillères et des couteaux à bourron pour ouvrir les portes des cellules où ils étaient enfermés. 4 d'entre eux ont été repris, mais 2 sont encore dehors. Mi-octobre, à l'établissement pour mineurs de Lavore, 2 prisonniers ont réussi à s'enfuir en passant de fenêtre en fenêtre pour grimper jusqu'au toit de l'établissement qui fait 7 mètres de haut. Malgré les dispositifs policiers, ils n'ont pas été retrouvés. On leur souhaite bon courage.
Alors, on va reparler du centre de rétention administrative du Canet de Marseille. On en avait parlé cet été parce qu'il y avait de multiples actes de résistance individuelle et collective de la part des retenus, une répression forte et une solidarité qui se montait à l'extérieur. Donc, il y avait une manif devant le CRA le 8 août où il y avait eu deux personnes arrêtées qui avaient été arrêtées pour parloir sauvage et qui passaient en procès le vendredi 16 novembre. Donc, on va rappeler ce que c'est que les parloirs sauvages. Donc, c'est quand des gens et des détenus qui discutent sans autorisation de la rue à la fenêtre, c'est un moyen alternatif de communiquer face à la difficulté de communication entre l'extérieur et l'intérieur, parce que toutes les communications sont contrôlées et surveillées. Mais ici, le parloir sauvage et quelques pétards et feux d'artifice se transforment en un chef d'inculpation qui est mis en danger d'autrui, risque immédiat de mort ou d'infirmité, pour violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence. Donc les deux personnes ont été condamnées à 400 euros d'amende chacune. Et le 16 novembre également à Paris, il y a eu une manifestation nocturne et sonore devant le centre de rétention de Vincennes, en solidarité avec les deux personnes de Marseille qui passent un procès contre l'existence des centres de rétention et contre une nouvelle loi qui est en train d'être votée qui instaure une retenue contre l'identité de 16 heures pour les étrangers. Ce serait une loi qui servirait à pallier à l'interdiction de garde à vue pour défaut de papier qui avait été instaurée en juillet.
Alors une autre nouvelle, c'est quelque chose qui s'est passé à Perpignan au début du mois d'octobre. Donc apparemment c'est une trentaine de personnes proches de quelqu'un qui passait au tribunal et qui sont allées l'attendre à sa sortie du tribunal et qui ont essayé de le libérer de l'escorte qui l'amenait jusqu'au fourgon cellulaire pour le conduire en prison. C'est un sacré chouette acte de courage et de solidarité. Bon, malheureusement ça n'a pas marché. Et ils auraient attaqué le portail du tribunal. Et on comprend toute la colère qu'il peut y avoir quand on voit un proche qui se fait engloutir comme ça par la justice et d'avoir envie de déverser sa colère contre cette institution. Donc des informations sur des actes de colère contre la prison, contre la justice, parce que c'est des actes qui nous font chaud au cœur et qu'on veut encourager et soutenir, parce qu'on pense que c'est tout ce que méritent ceux qui participent à enfermer. Donc il y a la voiture d'un surveillant qui a été incendiée le 25 octobre sur le parking du personnel du centre pénitentiaire de Plomeur. Une personne a été mise en examen pour ça. Le 2 novembre, il y a 13 prisonniers qui ont refusé de remonter de promenade à la maison d'arrêt de Belfort. Le directeur est descendu et a tenté de les endormir en utilisant les histoires de permission, de remise de peine et de semi-liberté, tantôt comme un bâton, tantôt comme une carotte. Mais ça n'a rien donné. Et finalement, ce sont les ERIS qui sont intervenus pour les faire remonter. Le journal dit que ça s'est passé sans heurts, mais qu'une cabine téléphonique a été cassée, une caméra de vidéosurveillance était visée aussi, mais hors d'atteinte parce qu'elle était trop haute, et qu'une porte qui donne sur la cour de promenade a aussi été cassée, donc sans heurts, mon œil. On apprend aussi que, à Long, près de Lille, le 13 octobre, en milieu de journée, une vingtaine de détenus armés de manches à balai ont refusé de remonter de promenade et que les ERIS sont intervenus à nouveau.
Alors, les murs ont des oreilles, c'est fini pour aujourd'hui. On vous rappelle que vous pouvez nous écrire par mail. Donc l'adresse mail, c'est lesmurs@riseup.net. Donc lesmurs, L-E-S-M-U-R-S, @riseup.net pour les mails. Et puis vous pouvez aussi nous écrire par voie postale. Alors l'adresse, c'est Les Murs ont des oreilles, Radio Kaléidoscope, BP 422, 38018, Grenoble. On vous donne rendez-vous pour la prochaine émission sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Au revoir.
Au revoir.